Salut à vous. Le titre de mon message aujourd'hui, l'histoire prophétisée de l'Église de Dieu. Dieu est tout-puissant et c'est formidable comment il fait les choses. Il est tellement admirable. Il est capable de prédire d'avance ce qui va arriver. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec l'histoire de sa petite Église depuis sa fondation en l'an 31 de notre ère, jusqu'à son retour prochain sur la terre pour établir son gouvernement. C'est pourquoi il est écrit dans Ésaïe 46 et le verset 10, c'est Dieu qui parle, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. » Et comme on va voir dans le sermon d'aujourd'hui, il l'a fait en ce qui concerne justement les sept différentes étapes par lesquelles sa petite Église, son petit grain de sénévé, allait passer au cours de l'histoire et qu'il a annoncé d'avance pour notre encouragement. On va voir ça dans Apocalypse 2 et 3. Vous pouvez d'ailleurs vous y reporter tout de suite, Apocalypse chapitre 2. Ça couvre la période, comme je vous ai dit, à partir de la fondation de l'Église, en l'an 31 de notre ère, jusqu'à son retour prochain d'ici peu. Pour le moment, ça c'est un mystère pour l'ensemble de l'humanité. Mais, chose formidable, Dieu révèle la compréhension de ça à son Église, à sa petite Église, aux quelques-uns que Dieu appelle encore et qui se mettent en marche pour faire sa volonté. C'est à ces gens-là que Dieu donne de comprendre la Bible, qui demeure un mystère pour la plupart des gens dans le monde. Apocalypse, chapitre 1, et moi j'ai mis un petit signet dans ma Bible, mettez un point de repère pour être capable d'y revenir, parce qu'on va y revenir au cours du sermon à plusieurs occasions. D'abord, je dois vous dire que le mot Apocalypse veut simplement dire révélation. Maintenant, on va voir de qui est venue cette révélation à l'origine et comment cette révélation-là a été transmise jusqu'à nous selon le plan et les directives établies par Dieu. Alors, on va commencer par lire le verset 1 et 2, puis après, je vous expliquerai des choses. Apocalypse, chapitre 1, verset 1 et 2. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Bon, ça c'est notre base. Maintenant, là-dedans, dans ce que je viens de vous montrer, si on porte attention, on voit la chaîne de transmission de cette vérité révélée. Ça vient directement du Père, de Dieu, qui l'a révélé à Jésus-Christ. Regardez, révélation de Jésus-Christ que Dieu, donc le Père, lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Alors, ça origine de Dieu le Père qui a transmis cette révélation-là au Christ, qui avait la responsabilité de la faire connaître à Jean, à l'apôtre Jean, dans une vision, comme on va voir tantôt. Et l'apôtre Jean, lui, a reçu la directive de la faire connaître aux appelés de Dieu, à son époque, mais à travers toute l'histoire de l'Église aussi. Et il dit, comme j'ai lu tantôt, les choses qui doivent arriver bientôt. Pourquoi est-ce que c'est écrit comme ça? C'est futur par rapport au moment où l'apôtre Jean écrit. Ça concerne la période commençant à son époque pour aller jusqu'au retour du Christ. Bon, un peu plus loin. Cette révélation-là était destinée à qui? Vous le savez déjà un peu, mais on va le voir de plus proche. Révélation destinée à, on le voit à Apocalypse 1, verset 4, juste un peu plus loin, début du verset. Jean aux sept églises qui sont en Asie. Donc, Jean devait envoyer ce message écrit à sept églises physiques qui étaient en Asie. C'était l'Église de Dieu, mais sept églises locales qui se trouvaient à cette période-là en Asie mineure. On le voit au verset 11 de quelle église il s'agit. Il y avait une église dans chacune des villes qui sont mentionnées ici. Verset 11, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. » Et nous, on l'a, ce livre-là. « Et envoie-le aux sept églises, à l'époque, en Asie mineure. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Donc, il donne le nom des sept villes dans lesquelles il y avait une église de Dieu à l'époque. Il y en avait d'autres églises de Dieu ailleurs, mais il a choisi ce circuit-là, je vous l'expliquerai tantôt. On va aller plus loin maintenant. Qu'est-ce qui devait être révélé par l'apôtre Jean? On fait une étude plus exhaustive, plus en détail aujourd'hui. Qu'est-ce qui devait être révélé par l'apôtre Jean? Trois choses principales. D'abord, et on le voit ici au verset 2, celui-ci, Jean, a attesté, c'est-à-dire qu'il a confirmé, il a annoncé pour sa part, un, la parole de Dieu, deux, le témoignage de Jésus-Christ, et trois, tout ce qu'il a vu, ce qu'il allait voir en songe à ce moment-là. Il l'a décrit dans les pages suivantes, dans le livre de l'Apocalypse. Et quand il devait rendre témoignage de la parole de Dieu, bien, la parole de Dieu à ce moment-là, c'était surtout l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament, comme vous le savez, forme avec le Nouveau Testament un tout, un ensemble. C'est le plan de Dieu dans son ensemble. Et beaucoup de choses qui ont été annoncées dans l'Ancien Testament, on les retrouve dans le Nouveau Testament et particulièrement dans le livre d'Apocalypse, la révélation à l'apôtre Jean qui devait être transmise aux églises locales, ces sept églises-là, et qui devait symboliquement ensuite être transmise à chaque étape de l'Église de Dieu dans l'histoire jusqu'au retour du Christ. Alors, ça, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, on voit que il est question, dès ici, dans Apocalypse 1, d'un jour spécial, d'une année spéciale. Regardez le verset 10. Qu'est-ce que Jean dit ici? « Je fus saisi par l'Esprit. » Donc, il y a eu une vision par l'Esprit de Dieu. « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. » Ça, c'est pas le dimanche. Plusieurs, ne comprenant pas la Bible, ne comprenant pas les prophéties, pensent que c'est le jour du Seigneur, le dimanche. C'est pas ça. Le jour du Seigneur, c'est la dernière année avant le retour du Christ. Avant le retour du Christ, il y aura une période de 3 années et demie de grandes turbulences sur toute la planète. Les 2 premières années et demie, c'est ce qu'on appelle la colère de Satan, où il y aura des guerres effroyables et des calamités épouvantables. Mais la dernière année, c'est la colère de Dieu, où Dieu ébranle toutes les nations parce qu'il veut les amener à réaliser qu'il existe, qu'il a établi un plan et qu'il est en train de passer à une autre étape où il va mettre fin à la civilisation malheureuse humaine sous la directive de Satan jusque-là. Et pour introduire un merveilleux monde, le merveilleux monde de demain. Alors, c'est ce que ça veut dire. Alors, il dit ici, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Donc, il a vu cette dernière année et il l'a décrit plus loin dans le livre d'Apocalypse. D'ailleurs, allez à Ésaïe 34. Gardez votre place ici. Gardez votre place dans Apocalypse 1 parce qu'on va revenir régulièrement. Allez dans Ésaïe 34. Il est question justement de cette dernière année que Dieu appelle une année de représailles de l'Éternel. Et on voit le contexte dès le début d'Ésaïe 34. Approchez nations, donc toutes les nations de la terre, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute, et elle et ce qui la remplit. Le monde et tout ce qu'il produit. Verset 2. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations. Comme je vous dis, la Bible nous montre que la dernière année, juste avant le retour de Christ, c'est le moment de la colère de Dieu sur l'ensemble de la terre. Et sa fureur sur toute leur armée, il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. OK. Par amour pour les amener à comprendre et à changer quand le moment sera venu. Maintenant, allez au verset 8 du même chapitre 34 du livre d'Ésaïe, où c'est précisé justement qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là et qu'il s'agit effectivement d'une année. Verset 8. « car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel. C'est justement le jour du Seigneur, le jour de l'Éternel dont l'apôtre Jean parle et qu'il a vu en songe. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Voyez-vous comment c'est précis, comment les morceaux du casse-tête tombent tous en place? Alors, il y a trois choses, donc, que l'apôtre Jean devait confirmer. La parole de Dieu, l'Ancien Testament qui annonçait les choses qui viennent et que lui précise dans le livre d'Apocalypse avec les visions qu'il a eues. Deuxièmement, comme on voit dans Apocalypse 1, je reviens à Apocalypse 1. Deuxièmement, alors celui-ci a attesté la parole de Dieu, première chose. Deuxièmement, le témoignage de Jésus, ce que Jésus lui-même a annoncé, son ministère, l'Évangile, la venue d'un gouvernement mondial dirigé par Dieu. Et troisièmement, tout ce qu'il a vu, c'est-à-dire la vision qui lui a été donnée à ce moment-là. Maintenant, voyons la description d'une partie de cette vision-là. C'est très clair. Juste un peu plus loin, Apocalypse 1, même chapitre où on se trouve, on va lire les versets 12 à 16. Versets 12 à 16, et là, on va voir ce qu'il a vu. « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. » C'est le fils de l'homme, justement, le Christ. Mais dans son apparence spirituelle glorieuse, c'est une vision que Jean a eue. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or à la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme du métal en fusion, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et regardez le verset 16. Le Christ, dans cette vision, avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. C'est quoi l'épée aiguë à deux tranchants? C'est sa parole de la vérité. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Formidable. Maintenant, on voit ici qu'il y a sept chandeliers et qu'il y a sept étoiles. Je vais vous expliquer les symboles. Pas moi, mais je vais vous expliquer ce que la Bible en dit, comment elle les définit. Mais pourquoi sept? Parce que pour Dieu, le chiffre sept, ça signifie quelque chose de complet. Quand Dieu a procédé à la création de l'univers, ça a pris combien de temps? Combien de jours? Sept jours. Et au bout de sept jours, sa création était complète. Combien de fêtes Dieu a-t-il décrété? Sept fêtes qui décrivent l'ensemble complet du plan de Dieu, étape par étape. Alors, sept, ça signifie complet. Maintenant, sept chandeliers et sept étoiles. Voyons la réponse que le Christ a révélée à Jean et qu'il lui a ordonné de placer dans un livre et de nous faire connaître. Verset 19, juste un peu plus loin. « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver. » Ensuite, le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Et là, il va expliquer. Les sept étoiles sont les anges des sept églises. Il y a un ange attitré à chacune des églises, chacune des époques de l'église. Et les sept chandeliers sont les sept églises. Voyez-vous, c'est pas compliqué. La Bible explique ses propres symboles. Les sept églises mentionnées ici, c'était des églises locales à l'époque en Asie mineure. C'était pas les seules églises locales, églises de Dieu qui existaient, il y en avait ailleurs aussi. Mais le Christ a choisi ces sept-là dans le but d'annoncer ce qu'il voulait annoncer. Il y avait d'autres églises locales autour. Question. Pourquoi ces sept églises particulières, justement? C'est qu'elles étaient situées géographiquement à la suite l'une de l'autre dans un circuit postal de l'Empire romain. Le courrier était distribué dans cet ordre-là. Et le Christ avait quelque chose à enseigner par rapport à l'ordre des choses qui allaient venir pour son Église au cours de l'histoire. Selon la directive de Dieu, le livre de Jean devait donc être transporté d'une Église à l'autre. C'est ce qui lui avait été donné comme directive, selon l'ordre des villes qui avait été donné. Maintenant, je précise une certaine chose. Ça s'adressait à ces églises-là locales, mais ça s'adresse à beaucoup plus grand. Il y a ce qu'on appelle une dualité de réalisation de cette prophétie-là, parce que ça s'applique en même temps aux sept étapes de toute l'histoire de l'Église de Dieu, depuis sa fondation en l'an 31 de notre ère jusqu'au retour prochain du Christ. Je continue, je pose encore des questions. Pourquoi transmettre ce message? Pour faire connaître à chacune des églises locales, là, et à chacune des périodes de l'Église dans l'histoire jusqu'à nous aujourd'hui, les trois choses que Jean avait reçues et qu'il devait faire connaître. Un, la parole de Dieu. Deux, le témoignage de Jésus. Et trois, ce qu'il a vu en songe, ce que Dieu lui a donné de voir, qui était prophétique. Maintenant, je vais un petit peu plus loin encore. On voit que le Christ est au milieu des sept chandeliers. Il y a un sens à ça aussi. Tout a un sens et tout a une explication. Pourquoi le Christ était au milieu des sept chandeliers dans le songe qui a été donné à l'apôtre Jean? C'est parce que le Christ est le chef de l'Église, le chef suprême de l'Église. Ce n'est pas un être humain qui est chef de l'Église. Il y a un chef humain à chaque époque de l'Église, bien sûr. Comme là, c'est M. Weston qui est chef de l'Église, chef humain. Mais le chef suprême au-dessus de lui, c'est le Christ, c'est le gouvernement de Dieu. Alors, pourquoi le Christ est représenté au milieu des sept chandeliers? C'est qu'il est le centre. Il est le cœur de l'histoire de l'Église à travers le temps jusqu'à son retour prochain sur la terre, après les trois années et demie de la grande détresse qui approche. Allez à Apocalypse 22. Gardez votre place dans Apocalypse 1. Allez à Apocalypse 22. Apocalypse 22, c'est le tout dernier chapitre de la Bible. Et vous allez voir que le Christ est consistant. Il revient sur ce qu'il a demandé à Jean de faire et il précise certaines choses. Apocalypse 22, et lisons le verset 6. C'est Jean qui parle. Il me dit, en parlant de ce que le Christ lui a dit, « Ses paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Et les choses en ce qui nous concerne, qui doivent arriver bientôt, ce sont les dernières étapes du plan de Dieu à notre époque avant le retour de Christ. Regardez maintenant, on peut le préciser au verset 12, on voit que c'est bien de cette période-là qu'il s'agit. Verset 12, un peu plus loin. « Voici, je viens bientôt, c'est le Christ qui parle, je viens bientôt. » Il parle du moment de son retour qui approche. « Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » C'est le moment des rétributions à ce moment-là. Et entre autres, c'est le moment où les fidèles serviteurs de Dieu, à travers l'histoire, ceux qui sont morts, seront ramenés à la vie, changés en être spirituels, recevront un poste dans le royaume et pourront administrer la terre avec le Christ. Et ceux qui seront encore vivants au moment du retour de Christ, comme la Bible le montre, seront transformés en êtres spirituels aussi pour faire partie de l'équipe de service pour enseigner l'humanité, les guérir, les encourager, leur expliquer l'histoire du monde et leur expliquer les choses que je vous explique aujourd'hui. Alors, c'est exactement ça. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je viens bientôt. Donc, il parle de cette époque qui approche. Et regardez le verset 16, un peu plus loin. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Et dans le grec, ici, c'est ça désigne l'apôtre Jean, le messager physique ici. J'ai envoyé mon ange pour vous attester de ces choses dans les églises. Pas seulement dans les sept petites églises originales en Asie mineure, mais dans les églises de Dieu à travers l'histoire. OK? Voilà. Il dit, moi, Jésus, j'ai demandé à mon serviteur de vous attester de ces choses dans les églises. Quelles églises? Les églises locales d'Asie mineure, comme je vous dis, et les sept étapes de l'Église au cours de l'histoire. Alors, ces lettres-là qu'on trouve adressées aux sept églises dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3, c'est un thème majeur de tout le livre d'Apocalypse. Et elles couvrent toute la période, comme je vous ai mentionné, allant de la fondation de l'Église en l'an 31 jusqu'au retour de Christ. Sept époques successives. Et ces sept époques-là, ou ces sept lettres-là, parlent des serviteurs de Dieu à chacune de ces époques. Les serviteurs de Dieu, c'est ceux que Dieu appelle, qui acceptent son appel, qui se mettent à changer, qui reçoivent davantage de son esprit et qui vont plus loin. Ça décrit les serviteurs de Dieu à chacune de ces époques. Le petit troupeau, l'Église de Dieu n'a jamais été un grand troupeau et elle ne le sera pas non plus avant le retour de Christ. Après, l'Église va s'étendre sur toute la terre. Mais pour l'instant, non. Et chacune des lettres décrit des points précis aussi concernant chacune des églises concernées. Le Christ leur donne des félicitations pour des points forts qu'ils ont développés, pour des qualités, des traits de caractère positifs. Et en même temps, deuxièmement, il donne à chacun certains avertissements en disant « il faut que vous changiez telle chose parce que vous êtes faible sur tel point ». Alors, il donne les deux. Voyons un exemple de ça, avec l'histoire de la première église, celle d'Éphèse. Alors, Éphèse, Apocalypse 2, je reviens à Apocalypse, Apocalypse 2, verset 1. Ça, c'est la première église dans l'histoire, celle des apôtres. Apocalypse 2, verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. C'est le Christ qui parle. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Il y a eu tellement de faux témoins à ce moment-là et de fausses accusations, de fausses églises qui ont tenté de s'impliquer, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Alors, voyez-vous, il félicite les membres de cette première église d'avoir persévéré, d'avoir été fidèles dans ce sens-là. Mais, et là après, il fait une mise en garde. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ça peut arriver à des églises comme ça peut arriver à des individus qui sont appelés à l'église. Au début, c'est tout feu, tout flamme, on découvre la splendeur de la vérité. Et après un certain temps, si on ne fait pas attention, on prend les choses pour acquis et on ralentit, on perd l'ardeur de notre premier amour. Et ça, il faut toujours le garder, comme dans un couple, il faut entretenir la flamme. Alors, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi, des fausses religions. Verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voilà la promesse faite à ces gens-là, à cette première étape de l'Église. Maintenant, je vais plus loin. Je vais vous lire un petit passage concernant l'Église d'Éphèse dans notre brochure qui s'intitule « L'Église de Dieu à travers les siècles ». Ça vaut vraiment la peine. Et ça vaut la peine d'étudier cette brochure-là parce qu'on va y puiser beaucoup plus que je peux vous donner au cours d'un sermon. Alors, concernant la première étape dans les sept étapes de l'histoire de l'Église de Dieu, voici ce qui est écrit à la page 23 de la brochure. La première église mentionnée dans Apocalypse 2 est l'église d'Éphèse. Cette église était celle de l'ère apostolique, au moment où les apôtres étaient encore en vie. Ce fut une ère qui travailla longuement et durement pour faire l'œuvre de Dieu, annoncer l'Évangile, et qui endura beaucoup d'épreuves et de persécutions. Après la destruction du Temple de Jérusalem, parce que c'est à leur époque que le Temple a été détruit. Ça a été sûrement un coup dur épouvantable pour eux. Après la destruction du Temple de Jérusalem, en 70 de notre ère, voyez-vous, l'Église avait été fondée en 31, et quelques décennies après, le temple a été détruit, 70 après Jésus-Christ. Le découragement et une léthargie spirituelle s'installèrent. Les frères s'attendaient à ce que le Christ revienne peu de temps après le siège de Jérusalem par l'armée romaine. Ils attendaient le retour de Christ, eux autres, de façon imminente, mais ce n'était pas encore le temps. Mais ils ne pouvaient pas ignorer que la grande partie de la Judée et de la Galilée était en ruine, investie par les légions romaines. Les Juifs chrétiens, les membres de l'Église à ce moment-là, étaient regardés comme des traîtres par les autres Juifs. Et regardez dans quelle position ils se retrouvaient et pourquoi ils ont été découragés, ils ont ralenti. Et ils étaient considérés comme des fauteurs de troubles par les autorités romaines. Alors, la vie était devenue très difficile et dangereuse pour eux. Cette première ère de l'Église a perdu son premier amour, c'est-à-dire qu'elle a perdu son zèle originel pour faire l'œuvre, pour continuer d'annoncer l'Évangile. Les membres commencèrent à perdre de vue les doctrines, les pratiques et les priorités qui définissaient leur véritable identité et leur véritable raison d'être. Le message du Christ aux chrétiens de l'ère d'Éphèse les incitait à se repentir et à retrouver leur zèle du début pour proclamer l'Évangile. Et cette ère-là s'est terminée à peu près vers l'an 135 de notre ère, c'est-à-dire à peu près 100 ans après la fondation de l'Église du Nouveau Testament. Continuons. Donc, chaque lettre indique un trait positif de l'Église en question et une attitude négative ou une attitude négative dominante à cette époque-là qui doit être changée. Et ça, ça s'applique à chacune des églises dans l'histoire, sauf à l'église de Philadelphie, comme on verra, parce que Philadelphie doit être une église fidèle, qui ne fait pas de compromis et qui tient bon. Alors, mais ça s'applique aussi à chacun de nous individuellement. C'est pour ça que la lecture puis l'analyse des sept lettres peut nous servir de grille personnelle pour examiner où on en est dans notre cheminement spirituel. Et c'est pour ça qu'à la fin de chacune des lettres, on trouve le même avertissement qui est donné à chacune des étapes, mais qui nous est adressé à nous aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, c'est une mise en garde pour dire, ne prenez pas à la légère ce qui vous est donné de connaître et de comprendre. Mettez-le en pratique de tout cœur. Vous ne serez pas parfait, mais allez-y de tout cœur pour être compté parmi ceux qui sont les fidèles serviteurs de Dieu. Alors, chacune des lettres décrit donc une étape différente et successive dans le temps de l'histoire de l'Église de Dieu à travers les siècles. Je vais faire une comparaison entre deux de ces églises-là et on va voir que c'est vraiment distinct dans le temps. L'Église de Smyrne, qui est la deuxième, qui a subi une forte persécution, l'Église, et l'Église de Philadelphie, celle qui est encore vivante à notre époque, et qui va, époque qui va connaître une grande persécution, mais pas seulement sur l'Église, sur le monde entier, la grande détresse qui va se produire. Voyons d'abord l'Église de Smyrne, Apocalypse 2, le verset 8. Écrit à l'ange de l'Église de Smyrne. Voyez maintenant le verset 10, l'élément majeur qui devait arriver à cette Église de Dieu à ce moment-là. Verset 10, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. » Ils allaient passer par une période terrible. « Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. » Mais en langage biblique, ce sera une tribulation qui va durer 10 ans, et elle a duré 10 ans. Vous pouvez voir le principe biblique ici, on le retrouve mentionné dans Nombre 14, verset 34. Nombre 14, verset 34, ça donne ce principe biblique, où dans certaines circonstances, une journée égale une année. Alors ici, il devait avoir une persécution qui dure 10 ans, et cette persécution-là a duré de l'an 303 de notre ère à l'an 313, 10 années. D'ailleurs, Adam Clark, dans son commentaire, en parle très clairement. Maintenant, arrivons à l'Église de Philadelphie. Église de Philadelphie, Apocalypse, chapitre 3, juste un peu plus loin, verset 7. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Verset 8. « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, c'est quand même une toute petite église, parce que tu as gardé ma parole. Voyez-vous, pas de compromis. Gardez vraiment la parole de Dieu. Et que tu n'as pas renié mon nom. Comment on peut renier le nom de Dieu en le connaissant? En connaissant Dieu et en ne pratiquant pas toutes ses voies. Il dit, tu n'as pas renié mon nom. Donc, ce sont des gens qui doivent vivre le mieux possible selon les lois de Dieu, même s'ils ne sont pas parfaits. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça, mais cette porte ouverte-là, c'est la possibilité d'annoncer l'Évangile. Et l'Église de Philadelphie a commencé sous M. Armstrong dans les années 1930 et par la suite. Et ça a été, je pourrais vous dire, l'âge d'or de l'annonce de l'Évangile. Ça a été publié dans le monde entier comme ça n'a été jamais fait au cours de l'histoire auparavant. C'est formidable. Écoutez, même à un certain moment donné, nous publions 8 500 000 pures vérités par mois en 7 ou 8 langues différentes, pour vous donner une idée. On était à la radio, à la télévision. Maintenant, on est sur Internet, on va plus loin. Ça a été un âge d'or. Il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il y a eu des grands changements après ça. L'Église a subi des attaques. Et maintenant, l'Église est toute petite, mais elle annonce l'Évangile au monde entier. Et maintenant, on le fait par Internet aussi, par nos conférences publiques, à nos abonnés et par tous les moyens qui sont mis à notre disposition. Ça continue. La porte n'est pas fermée et elle ne sera pas fermée jusque un peu avant la grande détresse, alors que nous ne pourrons plus annoncer l'Évangile. Mais ça sera continué par les deux témoins. Mais ça, c'est une autre question. Je ne veux pas aller là. Alors, il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ça, c'est l'ère de Philadelphie. Et regardez au verset 10, la belle promesse à ceux qui font ce travail-là avec zèle et qui continuent jusqu'à temps que ce soit impossible de le faire. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai. Ça veut dire que je te protégerai, ces gens-là, fidèles, zélés. Je te protégerai aussi à l'heure de la tentation ou à l'heure de la détresse qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alors, voyez-vous qu'il s'agit d'une autre époque que celle de Smyrne, même si ça parle d'une détresse. Pour l'Église de Smyrne, ça affectait seulement l'Église de Dieu, la petite Église de Dieu. Tandis que là, oui, ça va affecter l'Église, mais ça va affecter le monde entier. Et regardez le verset 11, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Alors, on voit que ça s'adresse à ceux qui sont au temps de la fin, juste avant son retour. Et nous, on le voit actuellement par les événements majeurs, catastrophiques et inhabituels qui frappent de plus en plus toute la terre en ce moment. Événements qui frappent toute la terre et qui vont continuer et qui vont même s'accentuer. Alors, voyez-vous, la sixième étape de l'Église, la sixième phase, celle de Philadelphie, elle existera encore jusqu'à la fin, jusqu'au temps de la fin. Et elle sera opérationnelle, l'ère de Philadelphie, pour annoncer l'Évangile jusqu'à temps qu'on ne soit plus capable de le faire jusque peu de temps avant la grande détresse, avant la grande tentation qui va frapper le monde entier. Mais il y aura une protection surnaturel à ce moment-là, accordé à certains membres de l'Église, ceux de l'Église qui seront fidèles, qui seront zélés. Comme j'ai dit, pas qu'ils seront parfaits, on ne sera jamais parfait, mais il faudra être en marche encore et en train de se perfectionner. Les autres membres de l'Église qui prennent à la légère leur appel, ou qui laissent tomber, ou qui font des compromis avec le monde, ou qui abandonnent certaines choses, les autres devront passer une dernière épreuve. Et même donner leur vie pour prouver leur appartenance à Dieu. C'est ce qui est prévu dans le plan de Dieu. On le verra un petit peu plus, un peu plus loin. Allez maintenant à Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse, chapitre 12. Et on va entrer dans cette explication-là. Parce que voyez-vous, la petite église de Dieu, là, elle a toujours été persécutée dans toute l'histoire. Et à plusieurs époques, elle a dû fuir les armées de l'Empire romain, durant des siècles, pour survivre et continuer en même temps de faire l'œuvre, parce qu'ils avaient eux autres aussi la mission d'annoncer dans la mesure du possible, c'est les ministres bien sûr qui devaient le faire, là, mais d'annoncer dans la mesure du possible l'Évangile, le retour du Christ sur la terre, l'établissement de son gouvernement. Alors, il y avait comme responsabilité non seulement de voir à survivre, mais de continuer l'œuvre de Dieu, qui n'allait jamais être détruite. C'est une promesse que le Christ avait faite. Hein? Il dit, je vais bâtir mon Église, les portes du séjour des morts, la destruction, ne prévaudront point contre elle. Elle ne sera jamais détruite, même si à certaines époques, elle est devenue toute petite. Apocalypse 12 et le verset 6. Verset 6. Et la femme, ça c'est l'Église, et la femme s'enfuit dans le désert. Je vais vous expliquer. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Je vous ai dit tantôt que l'Église a été poursuivie par l'Empire romain et elle a dû fuir pour être protégée. Dieu l'a protégée de façon extraordinaire pendant 1260 jours. Mais ici encore, un jour égale une année, selon le principe que je vous ai donné tantôt. L'Église de Dieu a été protégée de l'Empire romain de l'année 554 sous l'empereur Justinien jusqu'en 1814 à la chute de Napoléon. Faites le calcul, de l'an 554 à l'année 1814, ça fait 1260 ans. Un jour pour une année, ou une année pour un jour. Ça a été une protection qui a été accordée à l'Église pendant ces 1260 années, et ça symbolisait la protection qui sera accordée à la toute petite Église de Dieu, mais ceux de l'Église qui auront été zélés et fidèles, protection qui leur sera accordée, eux, pendant 1260 jours. Okay? Des journées de calendrier ordinaire. Formidable. Tout ça se tient. La parole de Dieu, elle est vraiment impressionnante. Puis ça nous montre là, comment Dieu est puissant puis comment il nous informe d'avance des choses qui viennent pour nous encourager. Pourquoi c'est arrivé de même? Parce que c'est Satan qui est le petit Dieu de ce monde depuis le début. Satan veut détruire l'Église. Satan a même voulu détruire le Christ. Il a fait tuer tous les enfants en bas de 2 ans par le roi Hérode après que le Christ est venu au monde pour essayer de détruire le Christ. Et après, il a inspiré Judas de le vendre. Et après, selon le plan de Dieu, là, le Christ s'est laissé être arrêté. Il était venu pour mourir. Ça, c'était prévu comme ça, cette partie-là. Mais autrement, Satan a toujours voulu détruire l'Église, a toujours voulu détruire le Christ, mais il n'est jamais arrivé à le faire. Et Satan va encore attaquer l'Église de Dieu. Mais en vain, il ne parviendra pas à détruire les serviteurs fidèles de Dieu au temps de la fin où nous sommes rendus. Apocalypse 12. Voyons maintenant le verset 13. Quand le dragon, c'est le serpent ancien, c'est Satan, qui séduit toute la terre, comme on voit au verset 9. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit, c'est-à-dire il persécuta la femme qui avait enfanté le fils. Il va poursuivre la femme qui sera en fuite vers son lieu de sécurité, comme on va le voir tantôt. Tout ça se tient. Ça, c'est avant la fuite, avant la protection. Satan va attaquer l'Église. L'Église de Philadelphie, c'est-à-dire la femme, les chrétiens fidèles et zélés, devra fuir vers un lieu précis qu'on ne connaît pas encore, mais que Dieu va déterminer au moment venu, tel que c'est marqué dans les textes. On le voit au verset 14, tout de suite après. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, à l'Église, pour qu'elle quitte, pour qu'elle s'enfuit. Ici, c'est une figure de style. Ça ne veut pas dire que ça va être par avion ou par des moyens comme ça. C'est pas impossible. Mais l'idée, c'est qu'il y a un moyen de fuite qui sera donné à l'Église. Les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu. Voyez-vous, il y a un lieu précis déterminé par Dieu qu'on connaîtra à l'époque, où elle est nourrie, l'Église sera nourrie à ce lieu de sécurité, elle recevra de la nourriture, du breuvage, nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est quoi ça? Un temps, c'est une année, des temps, c'est 2 années, la moitié d'un temps, une demi-année. Un temps, des temps, la moitié d'un temps. 3 années et demie, durant la grande détresse, durant les 1260 jours, de la grande détresse. Voyez comment la Bible est précise, comment Dieu est puissant, là. On le voit là-dedans. Alors, les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Satan ne pourra plus l'atteindre à ce moment-là. Les fidèles serviteurs de Dieu seront en paix pour avoir une période de 3 années et demie d'entraînement, de préparation à l'administration de la terre sous le Christ. Formidable. Alors, c'est ce qu'on voit qui va arriver. Et ça, ça correspond à ce qu'on a vu tantôt dans Apocalypse 3, le verset 10, l'église de Philadelphie, qui est fidèle, qui annonce l'évangile jusqu'à temps qu'elle soit empêchée de le faire et qu'il fait avec zèle. Qu'est-ce qu'il a dit? Apocalypse 3, verset 10, pas besoin de vous y reporter, mais je vous le rappelle. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai, je te protégerai aussi à l'heure de la tentation, de la persécution qui va venir sur le monde entier. Il dit, je vais te protéger à ce moment-là. C'est ce qui est décrit ici dans Apocalypse 12 et le verset 14, quand il dit que les deux ailes du grand aigle sont données à la femme pour qu'elle s'enfuit à un lieu de sécurité où elle sera nourrie pendant 3 années et demie. Protection promise lors de l'attaque de Satan. Regardez ce que disent les versets 15 et 16, tout de suite après. Et de sa gueule, le serpent, qui était furieux de voir l'Église fuir, et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve. Et symboliquement, ça représente des armées. Derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve, pour la détruire. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Protection surnaturelle qui sera accordée par Dieu à ce moment-là pour protéger sa petite église qui sera en fuite. Mais ce ne seront pas tous les membres de l'église de Dieu qui fuiront ou qui comprendront que c'est le temps de fuir. Parce que rappelez-vous, Dieu donne de comprendre à ceux qui mettent en pratique ses voies. Ceux qui négligent de les mettre en pratique, à un moment donné, perdent la compréhension des choses. Et certains ne comprendront plus ce qui se passe ou n'auront pas le courage de faire ce qu'il faut à ce moment-là pour quitter et aller au lieu de sécurité. Alors, ce n'est pas tous les membres de l'Église de Dieu qui vont fuir. On le voit au verset 17. Mais eux seront la cible privilégiée de Satan pour les détruire. Verset 17. Et le dragon, donc Satan, fut irrité contre la femme. Mais oui, il n'avait pas réussi à détruire la partie de l'Église qui était en fuite vers son lieu de sécurité. Alors, il se tourne de côté pour s'en prendre à ceux qui restent derrière. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Au reste de sa postérité. Ce sont des membres d'Église, mais qui n'ont pas le cœur totalement avec Dieu, qui font des compromis, qui ne sont pas là de tout cœur, à ceux qui gardent les commandements. Mais oui, ils ont les commandements. Ils font certaines choses en ce qui concerne la mise en pratique des commandements. Mais ils ne sont pas avec Dieu de tout cœur. Ils font des compromis. Ils se pensent certains d'être arrivés. Ils sentent pas le besoin de changer. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus-Christ. C'est fort. C'est fort. Notez ceci. Les deux dernières phases de l'Église, de Dieu, existent en même temps, au temps de la fin, aujourd'hui, à notre époque. L'Église de Philadelphie, qui a commencé sous M. Armstrong pour annoncer l'Évangile sans rien ajouter, sans rien retrancher, tel quel, et nous continuons à le faire parce que nous sommes issus de cette Église, nous sommes la continuation de l'Église de Dieu sous M. Armstrong. On a été sous M. Meredith et maintenant sous M. Weston. Et nous annonçons le même évangile avec zèle et on demande à Dieu de nous en donner encore davantage pour être capable de terminer l'œuvre qui nous a été confiée. Alors donc, l'Église de Philadelphie va continuer d'exister jusqu'avant la grande détresse et même après, mais elle va continuer d'opérer jusqu'avant la grande détresse. L'Église de Philadelphie existe en même temps que l'Église de Laodicée, ça c'est l'ère ou l'époque dans laquelle nous sommes entrés maintenant, où un certain nombre de membres de l'Église sont négligents, ne sont pas zélés, sont tièdes. Philadelphie va continuer avec ardeur, comme je vous dis, d'accomplir sa mission, d'annoncer le vrai évangile pour avertir le monde de ce qui approche Et Dieu se sert de ça en même temps pour appeler quelques personnes. Un ici, deux là, certains en Afrique, d'autres dans les Antilles, d'autres en Amérique. Dieu continue son œuvre ce temps-là. Et ça se fait, ça, durant la présente époque, alors qu'on est à l'étape de l'Église de Laodicée, où, comme je vous dis, plusieurs, malheureusement, sont tièdes. Manque de zèle pour changer. Certains voient ce qu'ils ont à changer, mais ils ne se pressent pas de changer. Ou ils refusent de voir ce qu'ils ont à changer. Ou ils ne soutiennent pas tellement l'œuvre, ne prient pas beaucoup, n'étudient pas chaque jour. Ils ne sont pas avec Dieu de tout cœur. Ce n'est pas leur priorité. C'est des gens d'Église, mais ils n'appartiennent pas totalement à Dieu. Et à un moment donné, la différence va se faire entre les deux. On le voit ici, au temps de la fin. Ils pensent qu'ils sont arrivés au but, qu'ils n'ont simplement qu'à attendre que le Christ revienne et qu'ils auront ainsi leur récompense. Absolument pas. Ils ne réalisent pas, dans le fond, leur véritable condition spirituelle. Le Christ va les repousser. Le Christ va les rejeter dans la grande détresse. C'est pour ça qu'il dit qu'il va les vomir de sa bouche. Voyons Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, où cette dernière phase de l'Église est décrite avec l'attitude qui la caractérise, l'attitude triste de ceux qui font des compromis et qui ne sont pas de tout cœur avec le Dieu qui les a appelés à la splendeur de son plan, à la splendeur de la vérité. Regardez Apocalypse chapitre 3 et le verset, à partir du verset 14 au verset 19. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, donc la dernière période dans laquelle nous nous trouvons, même si nous sommes de Philadelphie, écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin, fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Il dit, je connais tes œuvres. Le Christ examine ses églises. Il sait qui est qui et qui est vraiment avec lui ou non. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Ni froid, ni bouillant. Il dit, puisses-tu être froid ou bouillant, un ou l'autre, mais non pas sur la clôture. C'est pour ça qu'avec Dieu, on ne peut pas être à deux places. Il faut avoir tout notre cœur avec lui. On ne peut pas avoir notre cœur avec Dieu puis un pied dans le monde pour faire les choses comme le monde fait les choses, célébrer les fêtes que le monde célèbre et faire le genre de divertissement qu'ils utilisent et ainsi de suite. Non. Il faut être froid ou bouillant, être là ou ne pas y être. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ouf, c'est des paroles assez fortes de la part du Créateur Tout-Puissant, notre grand roi, le chef suprême de l'Église, notre grand frère qui a donné sa vie pour qu'on ait un jour la vie éternelle si on se soumet à lui, si on accepte son appel. Et si on le respecte de bonne façon. Je te vomirai de ma bouche. Et on va voir tantôt ce que ça veut dire. Parce que tu dis, et là, il décrit comment ceux qui sont laodicéens, qui ont l'attitude de cette époque, attitude négative de cette époque, comment ils se perçoivent. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, j'ai besoin de rien, je me suis enrichi de toutes sortes de façons, et je n'ai besoin de rien. Je n'ai même pas besoin que l'Église m'enseigne. J'ai déjà lu la Bible. J'ai déjà lu quelques brochures. Je sais de quoi il parle. Je sais que le Christ revient. Je suis tellement content. Mais je ne m'implique pas pour changer. Je ne m'implique pas pour soutenir l'œuvre. Je ne m'implique pas pour prier pour les autres, pour envoyer un petit mot ou un téléphone d'encouragement ou quoi que ce soit. Non, non. Je fais ma petite vie. Mais je sais la vérité. Je sais que le Christ va revenir et je vais être là. Mais dans quelles conditions? Si on est dans cette attitude-là. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas, le Christ dit, tu ne sais pas, tu te penses rendu, tu te penses correct, tu te penses vainqueur, non. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, que tu es pauvre, que tu n'as pas de vraie richesse spirituelle, que tu n'as pas vraiment travaillé à développer les caractéristiques de Dieu, à développer les fruits de son esprit. La patience, la maîtrise de soi, la joie, la bonté, la persévérance, la foi. Tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle. Tu ne vois même pas ta condition, tu te penses correct et nu. Regardez ce que le Christ dit. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Donc, Le Christ dit, tu vas devoir passer par le feu, par l'épreuve du feu, pour être capable d'acheter de l'or, de me prouver que tu veux m'appartenir, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. » Je châtie tous ceux que j'aime. Dit, aie donc du zèle et repens-toi. Donc, voyez-vous, ce que le Christ va faire à ce moment-là, c'est qu'il va rejeter dans la grande détresse ceux qui ne seront, ceux de son Église qui n'auront pas été assez zélés, assez fervents, assez déterminés à appartenir à Dieu et à mettre les bonnes priorités dans leur vie. Il va les rejeter par amour dans la grande détresse pour leur donner une occasion de prouver qu'ils veulent lui appartenir. Mais ce sera en donnant leur vie. Parce que l'adversaire va les poursuivre jusqu'au bout et va faire en sorte qu'ils soient détruits, qu'ils meurent physiquement. Mais pour avoir accès à la vie éternelle, il faudra qu'ils prouvent, en acceptant de passer par cette épreuve, qu'ils veulent vraiment appartenir à Dieu. Et c'est parce que le Christ les aime qu'il leur permet une dernière occasion de revenir totalement à lui. Alors, voyez-vous, l'histoire de l'Église, c'est les sept étapes qui sont décrites par les sept lettres envoyées aux sept églises. D'abord, aux sept églises dans l'Asie mineure à l'époque, qui correspond à la Turquie aujourd'hui, et qui ont été envoyées par la suite dans le temps, jusqu'à nous aujourd'hui, par le livre de la Bible, par le livre de la Révélation, qui a été envoyé aux sept églises à travers l'histoire et qui nous est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui. C'est l'histoire prophétisée des sept étapes de l'Église au cours des millénaires. Elle nous apprend beaucoup. Prenez le temps de relire ça dans la Bible. Prenez le temps de relire ça. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment la peine. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez découvrir encore là, comme on le fait aujourd'hui dans le sermon, là, la majesté de Dieu, sa puissance. Lui qui peut annoncer d'avance les choses qui vont arriver. Une puissance extraordinaire. Vous allez voir, dans le fond, c'est l'histoire de notre famille. C'est l'histoire de la famille de Dieu à travers les époques. On va voir des exemples de personnes qui ont dû passer des grandes épreuves et qui, avec l'aide de Dieu, ont passé à travers. C'est des exemples pour nous encourager. Alors, c'est ce que nous enseignent les lettres aux sept églises. Et dans les lettres aux sept églises, on y trouve aussi une grille d'examen personnel pour que ce que le Christ reproche à chacune d'elles, sauf Philadelphie, c'est que ça nous soit utile pour ne pas répéter ces erreurs-là dans notre vie. Si, par exemple, on a perdu un peu le zèle de nos premiers amours par rapport à la vérité, par rapport à Dieu, à son Fils, à son sacrifice, c'est le temps de revenir. Ce n'est pas encore terminé, l'histoire n'est pas terminée, sauf que le temps se fait court. Et il nous faut prendre au sérieux notre appel, le considérer comme important et le mettre en premier, mettre Dieu et ses voies en premier dans notre vie. C'est ça nos vraies priorités. Les vraies priorités d'un chrétien, c'est simple. Dieu d'abord. Famille, ensuite. Ensuite, travail. Église. Alors, voyez-vous, faut faire ça dans cet ordre-là et le faire avec cœur. De sorte que la priorité demeure toujours la même. C'est pas nos loisirs. C'est pas ce qu'on a envie de se procurer sur le plan humain qui compte. C'est ce qu'on doit faire pour se préparer aux choses qui approchent et être vraiment prêt lorsque ça va arriver. Prenez le temps d'étudier les lettres aux sept églises dans la Bible. Et moi, je vous encourage fortement à prendre le temps d'étudier la brochure que je vous ai montrée tantôt ici. Très bien faite. L'Église de Dieu à travers les âges. Vous allez y découvrir beaucoup de détails que je n'ai pas pu vous donner aujourd'hui. Vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin et comprendre ce qui est arrivé à l'Église. Et où on est rendu, qu'est-ce qui s'est passé exactement et qu'est-ce qui vient. Formidable, c'est important. On a des leçons à en tirer et une façon de se préparer aux choses qui viennent. Voyez-vous, les prophéties annoncées par Dieu, elles vont aussi se réaliser à 100%. Comme toutes celles qui ont été annoncées dans le passé, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et dans l'Apocalypse, et qui se sont réalisées. Certaines d'entre elles se sont déjà réalisées. D'autres sont en train de se réaliser et d'autres vont se réaliser bientôt. Mais tout ce que Dieu a annoncé va se réaliser, comme dans l'histoire de l'Église à travers les siècles. Et je vais plus loin, parce que les prophéties annoncées par Dieu se réalisent de plus en plus sous nos yeux. Vous le savez, vous voyez les nouvelles, vous voyez ce qui arrive sur la terre, des choses inédites, sans précédent, mais qui avaient été annoncées. On vous en parlera dans d'autres messages un peu plus tard. Donc, les prophéties annoncées se réalisent actuellement sous nos yeux. Le temps est compté. Le temps est compté. Mais on a encore la possibilité de s'approcher de Dieu et de rester proche de lui, de nous appliquer à garder avec zèle les bonnes priorités spirituelles vers la délivrance qui approche, pas juste pour nous, mais pour toute l'humanité, puis vers les grandes bénédictions que Dieu nous a promises. Allez dans Apocalypse 3, versets 11 et 12. Apocalypse 3, versets 11 et 12. Verset 11, à l'église de Philadelphie, ceux qui vont être persévérants, zélés jusqu'à la fin pour soutenir l'œuvre et continuer à changer pour devenir comme le Christ. Je viens bientôt, c'est le Christ qui parle. Retiens ce que tu as. Ça veut dire qu'on peut le perdre si on ne fait pas attention pour le retenir. Retiens ce que tu as reçu comme information, ce que tu as déjà développé comme caractère. Continue. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Quelle couronne? Mais celle qui nous sera accordée en tant que petit roi sous le roi des rois, pour diriger la terre, pour servir les êtres humains après le retour du Christ. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne, ne détruise ton avenir. Et regardez verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. Donc, il aura son poste pour l'éternité. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Voyez-vous ce qui attend ceux qui sont fidèles? La promesse extraordinaire et de vie éternelle et de service à l'humanité sous le Christ après son retour. Et vous pourrez aller voir dans Ésaïe 65, versets 15 et 16. Je ne m'y reporterai pas, mais vous irez voir Ésaïe 65, versets 15 et 16, où il est question du nouveau nom que Dieu va nous donner et de la félicité, du bonheur qu'il y aura à ce moment-là. Il dit ceci, il donnera à ses serviteurs un autre nom. Les anciennes souffrances seront oubliées. Tout ce qu'on voit actuellement, toutes les misères du monde, toutes les souffrances que les gens endurent et que vous ou moi endurons de toutes sortes de façons, les épreuves par lesquelles nous passons, il dit, elles seront oubliées. Ce sera chose du passé. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.